À la une, le sommet sur la Nouvelle-Calédonie à Paris. Un rendez-vous qui s'ouvrira ce soir pour nous par un discours du président de la République, Emmanuel Macron. Un casse à la voiture Bélier à Moindoux. La station-service a été la cible de cambrioleurs qui n'ont toutefois pas trouvé d'argent liquide dans la caisse et ont dû repartir avec un maigre butin. Ils sont activement recherchés. À Nouméa, le salon Floralier Jardinage ouvre ses portes demain. À la Maison des Artisans, route de Nouville, il se tiendra durant 4 jours pour les amoureux des plantes vertes. Quand les idées de carrière viennent à la rencontre de la jeunesse, pour aider des élèves à trouver leur voie, un forum de l'orientation était organisé au lycée Anova de Païta. Les amateurs de grillades sont dans les starting blocks après 5 ans d'absence. La fête du bœuf bientôt de retour. Les inscriptions pour le grand concours de barbecue sont ouvertes. L'actualité dans le Pacifique, les questions de sécurité régionale au centre des premiers échanges lors de la visite du premier ministre fidjien en Australie. Et le sport, les mini-jeux de Palau, 3e journée de compétition avec des cagous engagés en natation, volley, beach volley et tennis de table. Page spéciale à la fin de ce journal. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. C'est dans un peu plus de 6 heures que débute le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à l'initiative du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui prendra la parole en ouverture de ce sommet à 15 heures à l'Élysée. Il sera minuit, heure de Nouméa. Les négociations politiques débuteront dans la foulée à l'hôtel Hilton de Bougival où seront hébergées les délégations. Des négociations qui se poursuivront à huis clos tout le week-end, mais sans échéance prédéterminée. Elisabeth Noir.
L'objectif de ce sommet, qui était décidé par le président de la République après l'échec du conclave de Deva, c'est de sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse dans laquelle elle se trouve, d'essayer de trouver une solution institutionnelle pour sortir de l'accord de Nouméa et de trouver les moyens d'une relance économique d'un territoire véritablement exsangue en raison de la crise provoquée par les émeutes de mai 2024. Un vaste programme dont l'issue est bien sûr très incertaine. Selon l'Élysée, la démarche présidentielle vise à instaurer un dialogue garant d'un équilibre politique, social et culturel durable, adapté à la réalité calédonienne. Le président de la République qui souhaiterait dépasser les logiques d'opposition pour construire un avenir partagé, équilibré et pérenne. Les négociations politiques débuteront, vous le disiez, cette nuit pour nous à l'hôtel Hilton de Bougival. Elles auront lieu en soirée et pendant le week-end. Des discussions à huis clos sans date butoir, la volonté étant de prendre le temps qu'il faudra pour essayer de trouver une solution. Mais il faut dire que le contenu et le déroulé de ce sommet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie restent encore très flous. Des séquences hybrides sont en effet prévues jeudi et vendredi matin, rue Oudinot, avec les acteurs économiques et sociaux et la société civile, pour ce qui a été appelé le Collège économique et sociétal, qui portera sur 4 grands thèmes, les finances publiques, le nickel, la diversification économique et le projet de société.
Et on s'interroge aussi sur le contenu des négociations politiques. Aucune indication n'a été donnée sur ce point.
Eh bien, on ne connaît pas les intentions réelles du président de la République et le discours qu'Emmanuel Macron prononcera ce soir face aux délégations politiques est bien sûr extrêmement attendu. Le chef de l'État avait déclaré en annonçant ce sommet qu'il souhaitait un projet nouveau. Mais tout le monde s'interroge sur le sens de cette formule. On se demande notamment s'il doit être nouveau par rapport au projet Valls de souveraineté avec la France ou d'indépendance association qui a été rejeté par les partisans de la France. Les loyalistes et le Rassemblement ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas entamer les discussions sur cette base. À l'inverse, le FLNKS déclare que pour lui, le projet Valls est le nouveau plancher de discussion et qu'aucun compromis ne pourrait être envisagé en deçà du socle qui a été proposé à Deva. La marge de manœuvre du président de la République est donc étroite pour trouver une voie de négociation. On devrait en savoir plus dans la nuit.
Et à la veille de ce rendez-vous, les loyalistes et le Rassemblement précisent les positions qu'ils défendront lors de ces négociations et ils indiquent dans un communiqué qu'ils iront unis au sommet sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Le Rassemblement et les loyalistes participeront à ce sommet dans l'espoir de sortir enfin de l'incertitude politique qui paralyse notre territoire depuis 2021. Ils précisent qu'ils réaffirmeront avec clarté leur attachement à une Nouvelle-Calédonie française en cohérence avec la volonté souveraine exprimée par les Calédoniens à 3 reprises lors des référendums prévus par l'accord de Nouméa. Nous porterons, écrivent-ils, la vision d'une société calédonienne ouverte et multiculturelle, farouchement opposée à la montée du communautarisme et au repli identitaire. Nous plaiderons, poursuivent-ils, pour le transfert de compétences supplémentaires aux provinces, particulièrement celles leur permettant, comme la compétence fiscale ou le droit du travail, de développer un modèle de société adapté à leur réalité. Pour les loyalistes et le Rassemblement, la négociation autour des compétences entre la Calédonie, les provinces et l'État devra se faire à la lumière des capacités financières du territoire, mises à mal par l'insurrection de mai 2024, qui a plongé la Calédonie dans une crise économique, sociale et sécuritaire sans précédent. Les loyalistes et le Rassemblement saluent aussi la tenue d'ateliers thématiques consacrés aux enjeux économiques. Ils appellent à une stratégie industrielle et commerciale claire et partagée, notamment dans le domaine du nickel, pour reconstruire durablement le tissu productif calédonien. Ils revendiquent enfin l'unité des représentants des loyalistes et du Rassemblement, la même unité, disent-ils, qui a permis de faire obstacle au projet d'indépendance association porté par le ministre d'État Manuel Valls.
Elisabeth Noir, c'est aussi à la veille du sommet de Paris que les députés de la délégation aux Outre-mer ont voté le rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
Son président, le député LFI David Riemann, et le député LR Philippe Gosselin étaient venus en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de mai, aux côtés des députés calédoniens, pour rencontrer les différents acteurs du dossier. Le texte, dont les co-rapporteurs sont Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou, formule 15 propositions pour, et je cite, éviter la spirale infernale du profond dépérissement que vit la Nouvelle-Calédonie. Les 15 propositions de ce rapport sont notamment d'activer la réserve sanitaire, d'engager une réflexion sur l'extension du dispositif de péréquation énergétique pour lutter contre le coût exorbitant de l'énergie, ou encore de poursuivre l'aide financière votée en loi de finances pour 2025 en la dissociant des réformes exigées, ou encore de soutenir d'urgence un plan de relance économique exceptionnel.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 64% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet de Paris sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne permettra aucune avancée. Ils sont 27% qui disent en attendre surtout des avancées dans le domaine de l'avenir institutionnel. Ils sont 9% à en attendre plutôt des avancées dans le volet économique et sociétal. Notre question du jour, après sa condamnation à une peine d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs, Philippe Gomez peut-il, selon vous, participer aux négociations sur l'avenir? Si vous pensez qu'il peut y participer, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Un rendez-vous sur l'antenne d'RRB, c'est le procureur de la République, Yves Dupas, qui sera demain notre invité du matin pour revenir sur le jugement du tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs. Nous l'interrogerons sur le contenu du dossier, sur les conséquences des condamnations à des peines de prison et d'inéligibilité et sur la notion d'exécution provisoire. Une interview d'Yves Dupas à suivre demain à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
À l'effet d'hiver, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un incident survenu hier aux abords du lycée Jules Garnier, la direction territoriale de la police nationale tient à apporter les précisions suivantes. Un jeune lycéen a été pris à partie devant l'établissement par un autre élève qui a tenté de l'agresser physiquement avec un couteau. Les faits ont pu être rapidement maîtrisés sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. La police nationale a immédiatement ouvert une enquête sous l'autorité du procureur de la République. L'auteur présumé est en garde à vue. Parallèlement à cela, une sécurisation des établissements scolaires a été mise en place. La police appelle chacun à faire preuve de responsabilité et à éviter toute diffusion ou commentaire pouvant nuire à l'enquête en cours. L'effet divers toujours, un cambrioleur multirécidiviste arrêté en flagrant délit la nuit dernière à Nouméa. Très défavorablement connu de la police, il a été surpris en plein vol avec effraction dans un commerce de la baie de l'Orphelinat. À l'arrivée de la patrouille de police secours, l'individu avait dérobé des bouteilles d'alcool et le fond de caisse. Il a été placé en garde à vue. Un cambriolage à la voiture Bélier, la nuit dernière toujours, à la station-service de Moindou. Les quatre cambrioleurs, capuche sur la tête, ont fracturé le volet roulant à l'aide d'un pick-up volé à 2h30 du matin. La caisse et divers produits ont été volés par ces individus filmés par les caméras de vidéosurveillance de la station. Jérôme Poidaé est le co-gérant de la station-service de Moindou.
Ils ont fait une voiture Bélier, ils ont défoncé le store d'entrée, ils sont rentrés dans la station et ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, quoi. La nourriture, les cigarettes, ils sont partis avec la caisse aussi, mais la caisse était vide. Si vous voulez, depuis qu'il y a eu tous les stations cambriolées sur Nouméa, on enlève nos caisses aussi, donc pour l'instant, on n'a pas fait d'estimation. La station est fermée toute la journée, le temps qu'on trouve des solutions pour notre store et puis qu'on attend l'assurance. On est à l'abri de rien, quoi. Pour nous, on voyait que ça se passait à Nouméa, mais là, on commence à voir que ça commence à un peu monter dans le nord, du coup... faut juste que les commerçants ils prennent leurs précautions quoi, pour éviter ce genre de choses. On est là pour aider la population, pas pour que d'un coup, d'un soir, il y a une voiture qui vient et qui prend nos produits. Quoi. Du coup, on va plus faire de la vigilance au niveau de la sécurité. Ça peut toucher tout le monde, quoi. Ça n'arrive pas qu'à nous.
La station-service de Moindou est restée fermée toute la journée. Le parquet a ouvert une enquête pour vol aggravé. La maison des solidarités de Poya, fermée jusqu'au 15 juillet, une décision prise par la mairie après un vol par effraction dans la nuit de dimanche à lundi. Du matériel a été dérobé, les locaux dégradés. Evelyne Gorohatu est la maire de Poya.
On condamne ces actes, parce que bon, c'est sûr que c'est dommage. Ce qui est mis en place, c'est encore, au détriment donc de la population de Poya, quoi, les personnes les plus nécessiteuses. Après, c'est des actes délinquance, on va dire. Ils sont rentrés par une porte à l'arrière, ils ont effraction, ils ont cassé, puis ils sont rentrés par un autre accès du bureau au niveau du bâtiment, puis ils ont accédé après à l'intérieur sur la pièce qui sert à la MDS.
Qu'est-ce qu'ils ont volé?
Les broussailleuses, les cuiseurs à riz, un peu de tout ce qu'ils faisaient, nos dons pour les cabas alimentaires, voilà, ils se sont servis. Ils ont saccagé, mais sans forcément casser, quoi. Voilà. Donc là, le temps qu'on reconstitue le stock, on nettoie et puis on pourra rouvrir après le 15.
La mairie a déposé plainte. Une enquête est ouverte. D'après nos informations, le ou les auteurs sont toujours recherchés. Santé, attention à la recrudescence de cas de leptospirose. Le gouvernement alerte aujourd'hui et appelle la population à une vigilance accrue. Charlotte Coulson.
128 cas confirmés au 2 juillet 2025, dont 113 hospitalisations et 77 en service de réanimation. Le danger est bien réel et la situation d'ailleurs supérieure aux moyennes habituellement observées lors du premier semestre de l'année, qui tourne autour des 91 cas. En cause, sans doute, les fortes précipitations des dernières semaines et donc l'exposition à l'eau stagnante, mais aussi les retards dans le diagnostic et la prise en charge des malades. Dans un contexte de tension sur les ressources en personnel soignant, le gouvernement, par le biais de sa direction des affaires sanitaires et sociales, invite donc la population à se mobiliser. En cas de symptômes comme la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires ou la fatigue intense, une prise en charge rapide peut faire la différence. La DAS rappelle que la leptospirose est transmise à l'homme par contact avec l'urine de certains animaux comme les rongeurs. La bactérie peut d'ailleurs survivre plusieurs semaines dans l'eau ou la boue. Il est donc nécessaire de prendre certaines précautions. Ne pas marcher pieds nus ou en claquettes, surtout après de fortes pluies. Désinfecter et protéger ses plaies, notamment sur les membres inférieurs, et bien sûr, limiter la présence des rats autour des habitations.
Et il est 17h passé de 58 minutes, on se retrouve après une courte pause publicitaire pour voir le reste de l'actualité. Avis aux auditeurs à la main verte, c'est la grande semaine du jardinage dès demain à Nouville.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés casinos, cagnottez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés casinos. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse. Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Michael Judeski.
Un salon des professionnels du paysage et du jardinage à la Maison des Artisans. Il ouvre ses portes demain. Son objectif est de mettre en avant toutes les filières qui gravitent autour de ce domaine. Le salon Motoculture et Jardinage a donc été rebaptisé cette année, 33 ans après sa création, Floralie et Jardinage. En effet, les fleuristes sont plus particulièrement mises à l'honneur et notamment à travers un concours pour les exposants. Bertrand Vanal, l'un des organisateurs.
Le but, c'était de mettre en avant les artisans du jardin, en fait, la maison des artisans se transforme en un grand jardin, à l'occasion d'un concours, en fait. Ils vont réaliser une œuvre florale et végétale, d'ampleur en plus, et le public sera amené à voter, et dimanche, on saura le coup de cœur du public. Et l'artisan qui sera récompensé aura le loisir de participer gratuitement au salon 2026.
Le salon floralier jardinage débute donc demain matin. Il sera ouvert jusqu'à dimanche à la Maison des Artisans tous les jours de 8h30 à 16h. Environnement, comment lutter contre l'érosion du littoral? C'est une problématique qui se pose en Calédonie et à laquelle tente de répondre le projet Kiwa Payback Plus. Depuis 2 ans déjà, des travaux de restauration sont menés sur le territoire. Aujourd'hui, les élus et bailleurs ont pu visiter le chantier de Sainte-Marie à Nouméa, Charlotte Coulson.
Les réponses à l'érosion du littoral existent et parmi elles, les SFN, solutions fondées sur la nature. C'est ce que tentent de mettre en œuvre les acteurs du projet Payback Plus, notamment au parc urbain de Sainte-Marie. Depuis sa construction, le Remblai y est soumis à une problématique d'érosion. Les membres de Payback Plus, avec l'aide de Calédoclean, tentent de limiter ce phénomène, notamment en restaurant la végétation littorale. Le projet est coordonné par François Tron.
Notre solution fondée sur la nature, donc, ça a été de mettre en place les conditions d'implantation et de développement d'une végétation qui, par ses racines et son houppier, son feuillage, vont effectivement bien tenir la terre et dissiper l'énergie des vagues. On a fait plusieurs choses. On a mis en place des cordons pierreux pour favoriser la création des sédiments dans la berme, c'est-à-dire que les vagues vont projeter les débris coralliens, coquillés ou les petits cailloux dans la berme, au-dessus de notre cordon pierreux, au pied du talus. Et dans ce cordon pierreux, on va trouver notamment des laisses de mer, comme des algues, mais aussi des graines. Et les graines vont pouvoir germer et une végétation va pouvoir s'installer. Le cordon pierreux va réduire le risque d'érosion de la berme à nouveau et donc favoriser l'implantation de cette végétation.
Le site de Sainte-Marie est l'une des 7 zones dites de démonstration du Kiwa Payback Plus en province sud. Elles sont volontairement conçues sur des lieux visibles du grand public et faciles d'accès. Le but est ainsi d'impliquer les communautés locales. C'était d'ailleurs l'objet de la visite de cet après-midi, réunissant des élus et des bailleurs, comme Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, en charge notamment de l'environnement et du développement durable.
Très, très agréablement surpris. Parce que, en fait, je n'avais aucune idée qu'il y avait ce travail qui a été fait sur le remblai de ce site-là. Puis il y a un travail qui est très concluant, puisqu'on voit que les aménagements permettent vraiment de lutter contre l'érosion, d'installer un retour des palétuviers. Donc très satisfaisant, parce qu'on est tous affectés en Calédonie par la montée des eaux. Et c'est typiquement le genre d'initiative dont on a besoin pour les mettre en œuvre, nous, Calédoniens. Donc oui, c'est une problématique qui nous intéresse. On est très proactif sur ce sujet.
Et le projet Payback Plus prend fin d'ici 1 an au niveau de Sainte-Marie.
Au Mont d'Or, la 3e édition de la matinée en dynamique s'est tenue au Centre culturel de Boulary, un temps fort de la semaine handicapable consacré à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, Charlotte.
Et organisé par le Centre communal d'action sociale du Mont d'Or, cet événement a permis la rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi. L'objectif, créer des opportunités concrètes via un job dating, mais aussi faire connaître les dispositifs existants en matière d'emploi et de formation. Parmi les postulants, Pascal Courdine, ancien conducteur de poids lourd.
Depuis avril 2020 que j'ai subi un accident donc, au travail, j'ai subi donc, 3 opérations donc, au niveau du dos. Je me retrouve maintenant avec une broche et qui m'empêche de faire ce que je faisais avant et que j'adorais faire avant. Ben, voilà, maintenant, je me retrouve en situation d'handicapé et je vais rechercher donc, un emploi qui me permettrait de passer mes mois tranquilles, voilà, comme un peu tout le monde en ce moment. Donc c'est dur, c'est vrai, mais bon, voilà, on est obligé de passer par là. Quoi. Je suis un peu polyvalent, donc j'ai fait, depuis que je suis en Calédonie, j'ai fait plusieurs types de travaux. Non, je n'ai pas spécialement un truc, ben, maintenant il faut que je fasse par rapport à mon état, donc ce qui se présente.
Et une dizaine d'entreprises étaient présentes, ainsi que des associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Hugo Klinghoffer, responsable du collectif Handicap NC, explique comment les candidats sont accompagnés dans leur démarche.
On a un volet en fait sur l'insertion professionnelle où on va proposer des accompagnements individualisés et l'idée c'est de comment on développe en fait des activités, comment on fait pour donner des clés à des personnes pour ensuite aller sur le marché d'emploi et avoir fait un bilan de compétences, avoir travaillé à leur employabilité. On réfléchit avec eux à leur projet professionnel, on les aide à le co-construire, on leur explique un petit peu comment bien se préparer, comment on fait un entretien, comment on met à jour ces documents pour aller ensuite sur le marché de l'emploi. Très souvent ce sont des profils de personnes qui sont soit ont été éloignées de l'emploi, soit ont des difficultés à aller sur le marché de l'emploi, donc on les aide à avoir un petit peu les bonnes clés, les bons fondamentaux pour aller trouver un boulot.
Les contrats proposés durent au minimum 3 mois, renouvelables 1 fois. Pour chaque recrutement à temps complet, l'entreprise perçoit une somme de 550 000 francs.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Cette année, c'est le grand retour de la fête du bœuf à Païta. Après 5 ans d'absence, le dimanche 20 juillet, les visiteurs sont attendus au carré de Gadji pour cette journée emblématique de la culture broussarde. L'événement revient avec ses rodéos spectaculaires, ses stands artisanaux et ses dégustations typiques. Le point fort de la fête sera le traditionnel concours de barbecue, très attendu par les amateurs de grillades. Dominique Winka, membre du jury.
Il y aura 20 équipes de 3 personnes. Et pour le coup, c'est cuisiner 2 pièces de viande hein, qui est mise à disposition par le chef. Et ensuite, il y aura une sauce chimichurri qui sera imposée. Et avec un ingrédient mystère à mettre sur le barbecue aussi. Là, on va prendre en compte un petit peu la cuisson, l'organisation, le goût, aussi le dressage. Donc c'est un tout. Hein. Et puis aussi, il y a la partie un petit peu hygiène aussi. Donc voilà, mais ça reste très fun et c'est vraiment pour que, en tout cas, les équipes qui vont venir, qui passent un bon moment et qu'on va découvrir certainement des belles recettes et une bonne dégustation. Parce qu'ensuite, cette viande sera mise à dégustation pour le public qui sera là.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juillet pour participer au concours de barbecue. À la clé pour les 2 meilleures équipes, une place en finale du championnat calédonien de barbecue et un voyage en Australie pour participer au prestigieux Millstock, l'un des plus grands concours internationaux du genre. Jeunesse, le lycée Apollinaire Anova de Païta accueillait ce matin un forum de l'orientation et de la citoyenneté. Une opportunité pour les élèves de l'établissement d'obtenir des informations sur la suite de leur parcours scolaire ou d'insertion dans la vie active.
C'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le monde du travail, comment s'insérer professionnellement. Et ça nous aide à avoir des aperçus sur la poursuite d'études qu'on aimerait faire plus tard. Moi, j'aimerais plus m'orienter sur des licences.
Je trouve que c'est très bien quand même parce que ça permet de voir plein de trucs. D'habitude, on est focalisé sur les cours et puis là, on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Là, j'ai regardé, il y a les trucs armée de l'air, armée de terre. Il y a aussi les trucs de police nationale, c'est bien.
Surtout ce que par rapport à l'armée, ça m'a beaucoup intéressée. Et ils nous ont appris plein de choses comment ça se passe, comment avoir un dossier pour s'intégrer dedans et les profils qu'ils recherchent.
Je trouve que c'est bien de faire un carrefour des métiers pour plus tard, après le lycée du coup. Oui, ça me donne déjà des idées. Peut-être aller vers un BTS maintenance des systèmes.
Il y a des gens aussi qualifiés, on les voit, qui nous aident à nous orienter pour plus tard aussi.
C'est bien parce que on s'informe avec les personnes qui ont plus d'expérience. Ça nous permet d'être bien informés pour ne pas se tromper sur nos orientations.
Non, c'est bien, ça nous donne des bonnes informations.
Des choses qui vous intéressent plus?
À l'armée de terre. C'est bon ça. Juste si on loupe les études, il vaut mieux. Ils nous ont dit pour les mécaniciens, ils ont des primes.
Les 450 élèves de l'établissement ont pu profiter des stands installés tout au long de la matinée. Une conférence sur l'histoire du Japon, ça se passait au cinéma de Dimbéa ce matin. L'objectif, sensibiliser les élèves venus des lycées Blaise Pascal, Jules Garnier, du Mont d'Or et de Dikukewe à leurs possibles origines japonaises. Cette langue a en effet une place importante dans le cursus des lycéens calédoniens, explique Jocelyne Pommette. Elle est professeure de japonais au lycée Dikukewe.
La culture japonaise est très très présente en Calédonie. On compte actuellement sur tout le territoire environ 2700 à 2800 élèves qui étudient le japonais. Depuis plusieurs années, le Junior Study Tour qui se passe à Okinawa. Et toutes les personnes d'origine japonaise se rendent dans cette île et se retrouvent pour partager justement des souvenirs, des moments précieux. Et ce qui est très fort aussi, c'est que les jeunes qui ont pu y participer ont retrouvé leur famille. Donc c'est des moments très émouvants, des moments de retrouvailles et on va dire des liens qui étaient brisés qui se sont ressoudés. Mais sinon, il y a le Uchinanchu Festival qui réunit tous les descendants japonais du monde à Okinawa.
Aurore Bonaventure est une ancienne élève du lycée du Grand Nouméa et elle avait participé en 2010 au Junior Study Tour, ce programme d'échange avec le Japon.
Comme je suis descendante de japonais, en fait, mon arrière-grand-père, il est venu s'installer au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale. Là-bas, en fait, j'ai pu rencontrer le demi-frère de ma grand-mère, garder quelques contacts pendant quelques années. Après, on s'est perdu de vue, malheureusement. Donc, c'est même de partir sans forcément le Junior Study Tour. Je conseille de partir au Japon, d'aller découvrir qu'on soit descendant ou pas, d'ailleurs, du Japon. On peut totalement aller visiter le Japon. C'est tellement beau. Je conseille vraiment à tout le monde d'y aller.
Et parmi les intervenants lors de cette conférence ce matin, Marie-Josée Michel, membre de l'Amicale japonaise, ancienne consul honoraire du Japon, mais aussi Yoshikazu Iwata, le consul et chef adjoint du bureau consulaire du Japon à Nouméa. Un rendez-vous d'antenne. 8 startups calédoniennes ont participé récemment au salon Vivatech à Paris. Certaines d'entre elles viendront partager leur expérience demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quels sont les avantages de participer à ce type de salon? Ont-elles pu avoir des contacts commerciaux intéressants? Nous en parlerons avec Jean-Simon Chaudier, fondateur et gérant de Fight Tracking, Atem Belagi, fondateur et gérant d'Optimal RH, Philippe Gadet d'OPS Insight et Stéphanie De Palmas, chef de cabinet de Christopher Giger. Express, les jeudis de l'économie. C'est à retrouver demain, juste après Infomag à midi. L'actualité dans la région Pacifique, cette visite du Premier ministre fidjien en Australie. Sitivenirambuka a eu ses premiers entretiens. Il portait essentiellement sur les questions de sécurité régionale. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sitivenirambuka est accompagné dans sa visite de plusieurs ministres, dont ceux de la Défense, de l'Immigration et de l'Intérieur. Après une cérémonie d'accueil protocolaire, il a rencontré hier après-midi le ministre fédéral de l'Intérieur et de l'Immigration, Tony Burke, avec lequel il a abordé plusieurs thèmes de discussion qui portaient notamment sur la lutte contre le crime transnational, les trafics de drogue et d'êtres humains et les cybermenaces. Ils ont également convenu d'accroître la coopération bilatérale en matière de sécurité. Les entretiens que Sitivenirambuka va avoir durant son séjour à Canberra vont également porter sur le renforcement des capacités frontalières et portuaires et le renforcement surtout de la solidarité régionale en faveur d'un Pacifique sûr, stable et résilient. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h passé de 11 minutes. On va tourner une nouvelle pause publicitaire dans ce journal. Restez avec nous. Juste après, on voit toute l'actu sport et notamment les mini-jeux du Pacifique.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. RRB, première radio d'information.
Il est 18h12, tout de suite la suite de votre journal avec Michael Juneski.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique, les épreuves qui continuent ce mercredi à Palau. C'est le troisième jour de compétition. Des Calédoniens engagés dans différentes disciplines. Natation, volley, beach volley, tennis de table. En natation, première discipline pourvoyeuse de podium depuis le coup d'envoi. Je rappelle qu'hier soir, la délégation calédonienne avait encore remporté 3 nouvelles médailles. Une en argent et 2 en bronze face à une concurrence relevée pour nos jeunes. On écoute aujourd'hui le cadre de la natation calédonienne, Stéphane Tichon.
Tout d'abord, on a Tahiti qui a un centre d'entraînement performant et on voit les nageurs qui progressent d'année en année, hein, on les rencontre sur des compétitions nationales, etc. Et donc on voit la génération qui était là en 2023, ils sont présents en 2027 et on voit qu'ils commencent à être performants sur l'ensemble des courses du programme ici au mini-jeu. Ensuite, on a des nations aussi comme Fidji, Samoa, qui ont des nageurs qui nagent sur le territoire australien ou en Nouvelle-Zélande. Les îles Cook également, donc avec Jacob Story notamment. Donc on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est très bien pour la natation en général, puisqu'on voit que le niveau dans le Pacifique s'élève.
Les beach volleyeuses font leur entrée en lice dans le tournoi ce soir face aux Vanuatese. Smaïna Mampas et Guaymel Uedje qui représentent la Calédonie. Les volleyeurs indoor, messieurs, quant à eux, ont perdu aujourd'hui leur deuxième match de groupe face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3-7-1, après la victoire en 3-7 hier face à Nauru. Yann Bouverne, le coach adjoint de la sélection calédonienne de volley.
Déjà des gros échanges avec les amis de la Papouasie. Un peu de nervosité pour une équipe qui est très très jeune. Et puis quelques réglages techniques face à une équipe qui était quasiment similaire aux Jeux de Salomon. Donc là, on termine une phase de classement. Donc effectivement, ça va sûrement entraîner de rencontrer une équipe un peu plus forte, une équipe qui aura gagné sa poule. Je pense que c'est une équipe jeune qui découvre l'ambiance spécifique des Jeux. On a bien vu qu'avec les supporters papous, c'était quand même un peu compliqué de gérer les émotions. Donc là, le coach Willy, il est en train d'y reprendre pour rester focalisé sur la technique et pas se laisser embarquer par l'ambiance.
Ce mercredi toujours, les pongistes aussi sont engagés contre Nauru dans le tableau par équipe. Messieurs en tennis de table avec Raphaël Kin, Mathis Pindon et Jérôme Morisseau, l'entraîneur-joueur. Les cagous déjà engagés qui peuvent compter sur ceux en attente de débuter leur compétition pour venir les soutenir, à l'image de la coureuse Natalia Prado qui a un objectif dans les tribunes avant d'être à son tour en piste.
Faire du bruit. Bah, pour porter l'équipe là. Encouragé, ouais.
Le compteur des cagous est pour le moment à 9 médailles, 2 en or, 1 en argent, 6 en bronze. C'est une bonne entrée en matière selon le chef de mission OCTOS, Marion Romagne.
Très satisfait parce qu'en ce moment, on n'espérait pas tant sur la natation. Les jeunes ont un super comportement, ils font des médailles. 2 médailles d'or déjà, c'était un peu inespéré, mais on est très fiers de ces médailles d'or, de l'équipe de relais et de Manon. Donc non. Tout va bien pour l'instant. On fera un point d'ici 2 jours pour savoir le comportement de toutes ces équipes. Mais pour l'instant, tout va bien. On n'est pas venu là pour gagner les Jeux avec 31 athlètes, ça c'est sûr. On fera le maximum pour briller, pour tenir un rang correct par les médailles qu'on va faire sur l'athlétisme. Et puis tout, on compte quand même un peu sur l'athlétisme aussi pour faire ces médailles et puis toutes les autres disciplines qui sont représentées. Donc on espère.
Et de manière générale, si la cérémonie d'ouverture s'était déroulée sous une pluie battante, ces mini-jeux du Pacifique répondent aux attentes des organisateurs. Diane Buiduillet, l'ancienne nageuse et adjointe à la mairie de Nouméa en charge des sports, est aussi vice-présidente du Conseil des Jeux.
Ça a pris une bonne dynamique. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour le lancement, mais comme tout jeu ou mini-jeu, il y a toujours des moments de réglage. Les équipes sont rodées. Les jeunes prennent leur marque et ça c'est quelque chose qu'on souhaitait au sein du conseil et je pense que c'est une belle expérience pour tout le monde et que les jeux prennent une belle dynamique, donc satisfait. Tous les pays ont joué le jeu, on avait en effet une composante majoritairement sur toutes les disciplines jeunesse et en effet on a une vraie dynamique jeune. Et ça fait plaisir parce que l'idée, c'est de monter cette jeunesse en compétences et en performance. Donc, on est dans l'objectif.
Voilà, les Tahitiens qui étaient encore cet après-midi en tête du classement des médailles. Déjà plus de 40 médailles, 23 en or. Rien de surprenant, évidemment, pour une délégation venue en force pour être l'hôte des prochains grands Jeux du Pacifique. Alors que les Samoans sont deuxièmes avec 10 médailles, dont 6 en or. Je rectifie, 12 médailles. J'actualise en ce moment même les résultats au moment où je vous parle. 12 médailles, dont 6 en or pour les Samoans. Et puis les Palau sont remontés, le pays hôte de la compétition, avec un total de 18 médailles, dont 5 en or. Les Calédoniens, donc, je le rappelle, pour le moment, qui ont déjà décroché 9 médailles, qui pointent provisoirement, évidemment, à la 10e place. Mais il y a encore des finales en vue ce soir pour la délégation calédonienne dans ces mini-jeux du Pacifique.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Allez, encore un mot de sport du football. En Calédonie, avec un match en retard pour le compte de la 4e journée de Super League ce soir. À noter que le SC Neju affrontera l'AS Lossi. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h au stade Nomad LM. 18h passées de 18 minutes. On passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo avec vous, Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Cette nuit, malgré quelques éclaircies attendues sur la pointe nord et le nord-est, le ciel restera très nuageux sur l'ensemble de l'archipel. Des averses faibles et dispersées concerneront une bonne partie du territoire, à l'exception de l'extrême sud, l'île des Pins et des Loyautés, où de fortes précipitations orageuses seront probables. Le vent de nord à nord-ouest faiblira progressivement, oscillant entre 10 et 15 nœuds de marée à l'extrême sud. Ailleurs, le vent restera généralement faible, possible. Les températures minimales demeureront douces, comprises entre 20 et 23 degrés. Demain matin, l'instabilité persistera. Un risque marqué d'averses orageuses concernera encore les Loyautés, l'île des Pins et ponctuellement la pointe sud-est de la Grande Terre en début de journée. Le ciel restera maussade sur la façade ouest avec de petites pluies éparses. Ailleurs, de brèves éclaircies feront leur apparition. Le vent s'annoncera faible à variable et il soufflera autour de 5 à 10 nœuds de secteur nord sur les Loyautés et vers l'île des Pins, et ce sera de secteur sud sur la pointe nord-ouest.
Merci beaucoup pour la météo.